Salut, c'est Quentin, bienvenue dans l'émission Il y en a qui bossent. Émission des artisans qui vivent de leurs mains et qui créent leur travail. Il y en a qui bossent, chaque semaine, un homme, un lieu, des produits, du savoir-faire. Alors aujourd'hui, nous sommes à Villefranche-de-Rouergue pour l'émission Il y en a qui bossent, c'est bien Quentin, et je suis chez Philippe Lafont, caviste à Villefranche-de-Rouergue. Bonjour Monsieur Lafont.
Bonjour.
Donc voilà, on est là pour ici parler d'un endroit un petit peu mythique, très connu des Villefranchois, en tout cas où beaucoup de gens viennent se référencer et où faire des cadeaux, etc. etc. Donc il est bien aussi d'expliquer un peu qui sont les gens qui ont fait ce lieu, ce qu'il est devenu pour les Villefranchois. Donc je vous laisse un peu, Philippe, raconter un peu l'histoire de ce lieu et ce que ça a été, comment on en est arrivé là.
Donc, l'histoire a commencé en 1947, puisqu'en 1947, mon père, qui avait 25 ans à l'époque, savait pas quoi faire de sa vie, il s'est dit, je vais vendre du vin.
Voilà. Donc,
il
s'est installé. Comme ça.
Comme ça, il s'est dit, je vais vendre du vin. Et donc, il s'est installé, et il a commencé. Moi, je l'ai rejoint en 80. En 2006, mon fils m'a rejoint, donc c'est la troisième génération maintenant de caviste Lafont. Voilà.
Et ça a commencé, est-ce que vous pouvez, d'après ses récits à lui, comment ça a démarré, comment il a fait pour installer ça?
Ben à l'époque, c'était très simple. Ouais. Tu avais envie de travailler, tu trouvais un local et tu t'installais, ça marchait. Et
ça marchait.
C'est pas comme maintenant où c'est très très compliqué pour s'installer. Donc il avait connaissé, il jouait au rugby, il connaissait du monde. Et d'ailleurs, son premier client restaurateur, ça a été ton arrière-grand-père, Roger Kals, à l'univers.
En 1947. C'est très beau. Voilà.
Et donc, l'époque, si vous voulez, la vente de vin, c'était beaucoup de vin en vrac, beaucoup de barriques. Déjà acheté le vin en bonbon, en barrique.
C'était produit où, ça?
C'était du vin qui venait du Midi ou de la région du Quercy, puis la Roque.
D'accord.
Et puis, il y avait une grosse vente de produits qui ont disparu maintenant. C'était il y a les anisés, mais il y avait tout ce qu'on voit encore en publicité sur les vieilles maisons de la campagne. Le Raphaël, le Dubonnet,
ouais.
Tous ces vins-là.
Le Lillet.
C'est déjà un produit un peu plus luxueux. Ouais. Et tous ces produits se vendaient. Moi, je me rappelle, gamin, on recevait le Saint-Raphaël par 300 bouteilles.
Ça marchait, mes grands-parents, ils en vendaient.
Ils en vendaient tout ce qu'on appelle vin cuit,
ouais.
Qui était un faux nom parce que c'est pas des vins cuits, mais c'était des vins, des apéritifs qui marchaient bien. Et dans les bistrots de la ville, tout le monde consommait du vin rouge. Quand les gens descendaient le jour de la foire, la veille de la foire, c'était le plus gros jour de livraison.
C'est vrai que la foire, c'était un grand événement.
Il y a des bistrots, des restaurants qui passaient 300 litres de vin pendant le jour du marché. Et donc, c'était une consommation comme ça. Puis petit à petit, après, on s'est mis à bouteille étoile, parce que les gens achetaient du vin en étoile.
C'est-à-dire, je ne sais pas de quoi.
Des bouteilles étoiles, c'est des bouteilles consignées, dans des casières.
Ouais.
Donc, le boulot, c'était, moi, que j'avais 20 ans, c'était laver des bouteilles, remplir des bouteilles, porter des bouteilles, donc c'était pas un travail forcément très intéressant.
Ouais.
Et à l'époque, il n'y avait pas de culture du vin, il y a très peu de gens qui achetaient des vins supérieurs.
D'accord. Et sur Villefranche, c'était plutôt...
En général, les gens n'avaient pas... Même si on repart à 60 ans, vous achetiez une barrique de Von Romanée, par exemple, qui est une Bourgogne très connue, qui vaut 40 euros la bouteille maintenant, ça valait le double du vin ordinaire. Parce que personne...
Simplement.
Les gens n'achetaient pas. Il n'y avait pas de gens qui mettaient de l'argent sur le vin.
C'est la loi de l'offre et la demande qui a fait que ça... Ouais, okay.
Je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler, le champagne Rodoraire valait 50 francs. Le cristal Rodoraire, qui est haut de gamme, valait 100 francs.
C'est que dalle par rapport à aujourd'hui. Quoi.
Maintenant, c'est le Rodoraire, ça vaut 35-40 euros. Et le cristal, ça vaut 180. Et donc, parce qu'il y a une demande mondiale de produits haut de gamme.
D'accord.
Et donc, à l'époque, nous, on recevait... En barrique, on recevait du Bordeaux, du Saint-Émilion, du Bourgogne, on mettait en bouteille.
En barrique, quoi.
En barrique, et c'était mis en bouteille, les bouteilles consignées.
Et par rapport à aujourd'hui, comment était le vin à l'époque? Comment, enfin, qu'est-ce que c'était, ses qualités ou pas, ou qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Je ne peux pas trop savoir, parce qu'en fait, jusqu'à l'âge de 25 ans, je ne m'intéressais pas tellement au vin.
C'était le boulot pour le boulot, quoi.
C'était le boulot pour le boulot.
Alors, qu'est-ce qui vous intéressait, justement, à cette époque?
Mais c'est vrai, ça m'intéresse. Le vin ne m'intéressait pas, parce que je n'avais pas envie de reprendre la suite.
D'accord.
J'ai fait des études agricoles, parce que je rêvais d'élever de chevaux. Et donc, je voulais, donc j'ai passé un BTS agricole, je voulais acheter une ferme et élever des chevaux. Puis je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué, parce que le cheval, c'est un produit qui peut avoir beaucoup d'argent, mais on peut en perdre beaucoup. Je n'avais pas de ferme, donc je ne me suis pas lancé. Donc après mes études, j'étais moniteur de ski. Et pendant 3 ans, je travaillais en Suisse comme moniteur de ski.
C'était ça, je savais pas ça.
Et puis, mon père m'a tanné pour venir travailler avec lui. Je suis revenu travailler avec lui. Un peu contraint, forcé, mais pas par passion. D'accord. Et c'est là que je me suis dit, il faut que tu t'intéresses aux vins comme il faut. Voilà.
Et vous êtes allé un peu chercher un peu plus loin.
Et donc après, chercher des vins, parce qu'à l'époque, on vendait souvent des vins de négociants, des vins de coopératives. Et puis je commençais à travailler avec des vignerons, à les goûter. Les vacances, c'était les vignobles.
Ah ouais, mais la passion, elle est venue quand? Parce que là, vous parlez...
Et là, en 80, que je me suis installé avec mon père. La passion est arrivée là. D'accord. Parce que j'en avais marre, un petit peu fatigué, de mettre d'avoir des bouteilles.
C'était déjà bouteille. C'est ce qu'on fera, ouais. Voilà. D'accord. Et donc, de là, comment s'est passé un petit peu votre apprentissage de ce milieu, de cet univers? Comment vous avez vécu aussi, comme vous dites, le début de la mode du vin, quoi, et tout ce qui s'en est suivi?
Après, j'ai pris des bouquins, et je me suis mis à bouquiner la façon de travailler le vin, les vinifications, des guides pour savoir quels étaient les meilleurs vignerons. Après, je suis allé à leur rencontre.
Vous bougez beaucoup, hein, vous êtes connu pour ça.
Bougez beaucoup, ouais. En fait, il faut, quand on est caviste... Il faut aller au-delà du vigneron, il faut retransmettre ce que fait le vigneron au client qui vient chez nous. Donc si tu ne vas pas chez eux, si tu ne vois pas comment est le sol, comment est le terroir, comment ils travaillent, tu peux rien raconter au client. Alors le client, il a besoin de savoir.
Ça, c'est un vrai boulot de caviste, ils ne le font pas tous comme vous.
Après, il y en a qui le font plus ou moins, mais ouais, c'est vrai qu'il faut le faire. Il faut aller chez les gens, aller vers eux, te faire expliquer comment ils travaillent, et après... Et après, le retransmettre au client. Et puis, dans chaque appellation, on s'est rendu compte que l'appellation, ça, c'est un critère de terroir, mais pas de qualité. Donc, il y a dans toutes les appellations, il y a des vignerons qui font du haut de gamme, il y a des moyens de gamme et du bas de gamme. Mmh. Et donc, c'est à nous d'essayer de trouver le haut de gamme le moins cher possible pour que le client qui vient de chez nous, il fasse ses affaires, il soit content, il faut que le client revienne.
Bon et pas cher, quoi.
Donc, pas forcément pas cher, mais juste prix. Parce que des fois, vous avez des domaines... On en parlait tout à l'heure.
Vous pouvez donner des exemples.
Non, mais il y a des domaines qui vont avoir un super château avec 3 jardiniers, des super voitures. Mais sauf que quand tu achètes le vin, tu vas le payer, ça.
Ouais,
et tu arrives chez un autre, ben, ils ont oublié de faire le goudron. Il n'y a pas de jardinier, la voiture est pourrie, mais le vin est aussi bon. Et il vaut 30% de mauvaise. Donc ça fait partie de notre travail.
Ouais. C'est plutôt ce genre de gens-là que vous cherchez.
On cherche plutôt des gens qui sont... Des vrais gens de terroir.
Quelles ont été dans ces années de recherche et de rencontres les plus belles rencontres que vous ayez faites, qu'elles soient gustatives sur du vin ou humaines avec un vigneron?
Après, le premier rendez-vous de cœur que j'ai eu, c'était avec le millésime 1980, Château Bouscassé, à Madira.
Ouais. On en parlait avec Ludo la semaine dernière.
Et donc, un jour, on représente en passe, il me dit, c'est un jeune qui démarre, goûte-moi ce vin, tu me diras qu'est-ce que t'en penses. De cœur, donc du coup on achète, et tous les gens qui venaient chez nous chercher du Bordeaux, on leur disait mais goûtez ce Madira, vous allez voir, c'est super bon. Et tout le monde achetait du Madira. Et on a commencé comme ça. Et après, c'est toujours des histoires comme ça. Il y a eu les Estanilles en 1990, il y a eu les Estanilles à Faugères, premier grand vigneron à faire du vin à Faugères. Donc tu achètes, tu fais goûter, et puis les gens adhèrent. Et puis après, il y a eu la création du club de vin. Parce que le club de vin...
Ouais, ça, c'est une grosse partie de votre... Ça prend du temps.
Ça prend du temps, mais ça a été un plaisir parce que ça permettait de faire découvrir le vin à des gens.
Ça a démarré quand, ça?
1990.
D'accord. Voilà. Ouais, c'est vraiment...
Et donc, ça me permet d'abord de faire plaisir à des clients, des gens qui viennent goûter, qui dégustent, qui apprennent à déguster. Et ça permet aussi de savoir d'étalonner le vin. C'est-à-dire que... faire une dégustation, tu dis, toi tu vas penser que ce vin est très bon, mais si le client n'adhère pas, ça peut arriver. Des fois, il y a déjà des clients qui n'adhèrent pas.
C'est valable dans plein de milieux.
Donc tu fais une dégustation à l'aveugle et puis tu vois les vins qui plaisent. Donc ça te permet de conseiller après ces vins-là à des clients. Parce que tu les as analysés, tu dis pas celui-là il est super bon parce que c'est une promotion, parce que tu sais qu'il est bon, c'est pour ça que tu vas le vendre. Et il faut que les gens reviennent. Donc, c'est comme en restauration. Si ta cuisine n'est pas bonne,
Et le juste prix aussi, il faut le trouver.
Il faut trouver le juste prix. C'est dans tous les métiers pareil, je pense.
Et donc, ces séances de club de vin, justement, voilà, on est assis, on est autour de la table, justement, une longue table en bois. Comment ça se passe, une séance?
Donc, en général, je choisis entre 8 et 10 vins. Il y a un sujet. Les vins sont présentés à l'aveugle. Et chacun donne son avis. Donc, le sujet, ça peut être une appellation, on peut goûter que des Cahors. Ou on peut goûter le même cépage sur des terroirs différents. Ou on peut goûter on peut faire des verticales, c'est-à-dire le même vin sur 8 millésimes. Et donc, il faut.
Vous faites dans quel ordre en général? En descendant ou...
Ça dépend des vins.
D'accord.
Ça dépend
des vins. Ça, c'est passionnant quand même. Et aujourd'hui, depuis que vous avez commencé, qu'est-ce que vous pouvez. C'est une question un peu, je sais que vous n'êtes pas du genre à dire ça, mais de quoi vous êtes le plus fier en fait, depuis cette évolution, de tout ce qui s'est passé?
Ce que je suis fier, c'est d'avoir, depuis 20 ans, d'avoir une boutique qui progresse, même si dans une rue pas commerçante, parce que si vous êtes installé à côté de McDo, il y a 3000 personnes qui passent tous les jours, tu as toujours 1% qui s'arrête.
C'est un gros problème à Villefranche.
Voilà. Tandis que chez nous, il faut que les gens viennent exprès. Ouais. Et donc le plaisir, c'est toujours de voir des gens qui viennent, des gens de loin, puisqu'on a des clients qui viennent de Rodez, des gens qui viennent de Figeac énormément.
Vous expédiez pas à La Réunion aussi?
Un jour, on a un client qui est passé, qui a adoré nos vins, qui se rue chaque année avec des copains à lui, et nous commande une palette de vins. Donc il y a une palette qui part à La Réunion tous les ans, il y a une palette qui part au Luxembourg, il y a une palette qui part en Savoie, parce que c'est des gens à qui on a eu un bon contact, qui aiment nos vins et à qui on fait une... Voilà.
Génial.
Donc c'est toujours sympathique.
Ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, votre carte, elle s'axe un peu sous quels critères et plutôt vers quelle région? Qu'est-ce que vous aimez le plus proposer?
En fait, comme dans toutes les régions, ce qui se vend le plus, c'est les vins locaux.
Ouais.
Donc, effectivement, on va énormément travailler l'été, quand il y a du tourisme, les vins régionaux, c'est-à-dire Gaillac, Cahors, Aveyron. Et puis, les gens d'ici qui aiment découvrir sont portés plutôt sur le Languedoc. Puisque le Languedoc, c'est une région qui est en pleine progression. Il y a des super rapports qui ont été pris et les gens de la région achètent plutôt Languedoc que du Rhône. Et malheureusement, Bordeaux, qui représentait il y a 30 ans 80% des vins supérieurs, ne représente plus que 10% des vins supérieurs.
C'est dû à quoi?
C'est dû en fait le marché qui fait que les très bons Bordeaux sont partis très chers à l'export. Et donc il y avait des vins qui valaient 15 euros qui sont passés à 40, des vins de 30 qui passaient à 100 euros. Ben, les clients ont boudé.
Forcément.
Et il s'est trouvé que l'époque où le prix de Bordeaux a énormément augmenté, c'est à partir de 97, quand les Asiatiques se sont mis à acheter du vin. Il s'est trouvé qu'on a découvert les bienfaits du Languedoc, et tous les gens qui étaient passionnés de vin, qui étaient œnologues, qui avaient envie de faire du vin, sont allés acheter des vignes dans le Languedoc. Mmh. Pourquoi? Parce que c'était pas cher. Actuellement, on peut pas acheter une vigne à Saint-Émilion, à Bourgogne. Ça coûte des prix de fou. Donc, il n'y a que les sociétés qui peuvent acheter. Et donc, les passionnés, ils se sont retrouvés dans le Languedoc, dans les Côtes-du-Rhône, un peu dans le sud-ouest. Et ces gens-là font tout pour faire un grand vin. Comme ils ont les mêmes techniques de vinification que les grands Bordeaux, et même peut-être mieux.
Ouais.
Et donc, on arrive à trouver des super vins très agréables dans toutes les régions.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Après, je pense à tous les Roussis.
Ça me fait une pub particulière, mais je veux dire...
Toutes les régions ont progressé. Donc, il y a énormément de grands vins dans le Languedoc, dans les Côtes-du-Rhône. Et l'Aveyron est en train d'exploser aussi, surtout sur des blancs. Il y a des super blancs dans l'Aveyron, maintenant. C'est un terroir qu'on ne connaissait pas, mais il y a des très bons blancs ici. Des gens qui vont bien vinifier. Les Cahors ont fait d'énormes progrès, alors que Cahors, il y a 30 ans, c'était des vins très très moyens. Il y a des très grands Cahors. Mmh. Et puis il y a des très grands Gaillac, en blanc sec et en blanc doux.
Oui, c'est vrai. Bon, et bien du coup, comment question que je voulais poser, c'était comment se passe ça aujourd'hui? Je sais que vous avez des trucs à dire quand même. Sur cette vie à Villefranche, quoi. Parce que bon, aujourd'hui, vous êtes commerçant du centre-ville. Moi, je pense que s'il y a un commerçant du centre-ville qui représente, voilà, vous êtes quand même, je pense, peut-être le commerce le plus ancien du centre-ville. Un des plus anciens, ça, c'est sûr. Et du coup, comment ça se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
Ce que je peux dire, c'est que on est dans une région qui est magnifique et qu'on a la chance d'avoir des gens qui sont à 30 km autour, qui ont des résidences secondaires, qui sont revenus dans notre région pour, parce qu'ils aiment la joie, ils ont la joie de vivre ici, parce que c'est calme, c'est beau, et ils aiment la culture, et ils aiment surtout la nourriture. Nous, on voit des gens qui viennent, et ils viennent en ville, et ils font l'effort, ils vont chez le charcutier, ils vont chez le boucher, ils vont acheter le pain. Ils vont pas au supermarché faire le plein comme font tous les jeunes maintenant.
Vous dites qu'il faut l'effort, quoi.
Ils font l'effort parce qu'ils savent que c'est meilleur et c'est des gens qui sont passionnés. Donc les gens qui viennent chez nous, ben, ils vont faire un tour au Becfeng, acheter le foie gras, au fin de gourmet. Ils vont chez la viande avec le charcutier, ils vont chez tous les bouchers de la ville qui sont très bons et chez tous les pâtissiers qui travaillent bien. On a à l'intérieur de la ville un réseau de métiers de bouche qui sont super. Et de restaurants aussi, d'ailleurs.
Ouais.
Et donc, il y a des gens qui viennent exprès pour ça.
Je ne veux pas le dire, mais quand même, il faut y penser. Alors ça, c'est pour le côté positif et le côté négatif, quand même.
On se pose la question jusqu'à quand ça va durer. Parce qu'avec la fermeture de certains magasins, il y a quand même de moins en moins qui font l'effort de venir en ville. Alors, il y a des gens qui font l'effort, mais tout le monde ne le fait pas. Et c'est dommage.
Ce rapport qu'il y a avec cette route de Montauban là, qui monte vers Toulouse, est-ce que vous en ressentez? Vous avez vos passionnés, comme vous dites, vous avez vos fidèles et tout ça, mais est-ce que quand même vous ressentez une évolution? Parce que tous les ans, la ville se vide de plus en plus.
Après, c'est difficile à quantifier. Nous, c'est vrai qu'on a toujours fait une grosse progression depuis 20 ans. Et depuis un an ou deux, on fait une progression qui est beaucoup plus lente. Alors, est-ce que c'est fait? C'est vrai que quand des routes, quand tu es à 4 km du centre-ville, des fois, faire un effort pour revenir, descendre, c'est pas toujours évident.
Ouais.
Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas.
Il y en a qui prennent la bagnole du centre pour aller faire les courses là-haut, acheter deux trucs qu'ils auraient pu acheter ici.
Bien sûr, tout à fait. Ouais.
Aujourd'hui.
J'ai vu une émission à la télé la semaine dernière sur la ville de Saint-Lô.
C'est où ?
Saint-Lô, c'est dans la Manche, qui est une petite ville qui est comme, à peu près comme Villefranche, où les commerces du centre-ville ont refusé les rues piétonnes. Et donc, il y a le responsable du commerce centre-ville, comme Marianne Pi chez nous, qui s'en occupe, et qui a dit mais il n'y a jamais une ville de cette importance où le commerce fonctionne autant. Parce qu'en fait, si tu ne peux pas t'approcher,
c'est clair.
Je crois que le fait d'avoir empêché les gens de se garer passer Notre-Dame, ça a été mortel pour centre-ville.
Je le pense aussi.
Et plus que mortel.
Ouais. Et par rapport aux bagnoles, on en a subi tous les deux les conséquences de se faire aligner. Ça aussi, c'est vrai que ça a été quand même...
Ouais, puis on se fait aligner quand on travaille. Donc
surtout quand on travaille.
Sauf que c'est très compliqué. Ouais.
Parce que quand même, JB Lafond, il s'est fait aligner quand même, on va le dire, pendant qu'il était en train de livrer à l'univers. Trois fois.
Ouais.
On le dit à la radio, parce que bon, c'est un petit quart d'heure Jean-Luc Mélenchon, là. Et c'est vrai que voilà, on a eu comme ça des petits PV qui ont été faits pendant que la voiture était ouverte en warning et que JB était en train de livrer. Donc ça aide
alors
pas.
Alors qu'il y a énormément de gros camions qui, toute la journée, bloquent la ville.
C'est
qui,
clair.
Qui travaillent aussi, mais bon, voilà.
Qui n'ont pas ces problèmes.
Par contre, il y a 15 jours, j'étais au tribunal à Rodez et on m'a donné raison.
Ah ouais.
Voilà, donc.
Vous croyez une justice. Hein. est-ce qu'on peut rappeler les informations importantes pour ceux qui peut-être, peut-être qu'il y en a quand même, ne connaissent pas forcément cette cave, où on la trouve, comment on vous contacte, comment on peut acheter vos vins? Je sais qu'il y a des nouvelles méthodes mises en place depuis peu.
Bon, en fait, on a un site internet, mais qui est très sommaire, donc qui n'est pas toujours... au point, il n'y a pas tous les produits parce qu'en fait on a 1200 références, donc on ne peut pas tout mettre, c'est un peu dur à gérer. Et puis le vin, c'est bien de l'acheter sur internet, mais le mieux c'est d'en parler, parce que quand on discute avec la personne qui va acheter du vin, en discutant avec elle, en quelques secondes on peut savoir qu'est-ce qu'il aime, s'il est très grand connaisseur, moyen connaisseur, quel type de vin il veut acheter, et on peut essayer de le conseiller le mieux possible.
Ça, c'est vraiment le travail du caviste. Voilà, donc pour dire, on est l'adresse.
32 rue Sénéchal, à Villefranche.
Sur le tour de ville.
Sur le tour de ville, en face à la bibliothèque.
Ouais, il n'y a pas mieux, en face à la bibliothèque.
C'est le quartier culturel de la ville.
C'est ça. Bon, merci beaucoup, Philippe.
À
très bientôt.
Allez, au revoir.
Au revoir. « Chaque semaine, un homme, un lieu, des produits et du savoir-faire. Il y en a qui bossent. Émission des artisans qui vivent de leurs mains et qui créent leur travail.
On a besoin de temps pour décompresser et souffler. Oublier que tous les jours il faut lutter, ne pas couler, au moins flotter, au mieux naviguer. Tenter de garder le cap sans s'amirer, on peut échouer. Et là vaut mieux savoir ramer pour gagner la terre ferme. Attention, une fois qu'il est un lapin, les chasseurs faut éviter. T'es ambitieux, traîne pas trop devant la télé. Si tu reviens de vacances, c'est que t'es un peu trop bronzé. Oublie pas tes fap avant d'aller te balader, sois pas trop blasé. Allez, seul les stances sont distribués, ça manque jamais de volontaires pour te coller du tartare gommé. Mais faut rêver, y croire et s'accrocher et persister. Se battre et transpirer et cogiter. Déménager, s'activer. Respirer un bon coup et puis foncer avec la confiance. Comme allié, on peut faire ce qu'on veut si elle n'est pas au rendez-vous. On se démerde comme on peut, mieux vaut être teigneux. Pas trop rancune ni nerveux pour ne pas être game over au premier niveau du jeu. Yo Jano, c'est pas le moment de yoyoter, ça vient de commencer. C'est ça aussi d'être né égaux et en liberté. S'il y a moyen de bouger, j'en profiterai. Je me disais ça après cette réflexion. Café Club, c'est le petit déj des champions. J'ai de l'ambition, mais pas comme Napoléon. Je suis pas un colon, j'écris que des chansons. L'eau, elle s'en file, le frisson, elle plus. Loin possible, je veux enjamber l'horizon. Mais je suis un peu comme Antoine, il faut que je fasse un tube avant. Ma mère m'a dit à Nice, tu deviens un peu encombrant. Je lui ai dit, ok, je me tire, mais je me rase la boule avance. Tu m'as dit que la vie valait le coup, alors j'y crois maintenant, mais j'ai noté dans mes carnets qu'on en bave régulièrement. Comme on a tous des coups de blues de temps en temps, mais c'est normal. C'est la tension qui chute ou la pression qui monte, va savoir, Jano. Mais il faut rêver, y croire et s'accrocher et persister. Se battre et transpirer et cogiter. Déménager, s'activer. Respirer un bon coup et puis foncer avec la confiance. Comme allié, on peut faire ce qu'on veut si elle n'est pas au rendez-vous. On se démerde comme on peut, mieux vaut être teigneux. Pas trop rancune ni nerveux pour ne pas être top eject au premier niveau